Mais qu'est-ce qu'ils font tous les meubles dans le jardin?
T'avais pas dit qu'aujourd'hui on faisait le grand ménage de printemps? Et j'ai tout sorti.
Et la radio, on la retrouve comment pour écouter l'agité du local?
Nous sommes le mardi 7 mai et aujourd'hui, nous allons nous replonger dans un bel entretien de cette émission. C'est avec Michel Bélanger, coprésident de l'association Les Abeilles Mayennaises. Il venait nous parler en janvier des abeilles et du déclin de cette population d'insectes. On en apprend davantage sur cet animal fascinant et on redécouvre par la même occasion les actions de cette belle association locale. L'émission se terminera comme chaque mardi avec notre chroniqueur Donatien. Et oui, bienvenue amis auditoristes dans l'agité du local, je suis Margot et l'émission commence maintenant.
Michel Bélanger est avec nous aujourd'hui. Michel, vous êtes le coprésident de l'association Abeilles Mayennaises. L'association a été créée en 2008 et elle s'est fixée pour but la sauvegarde de l'abeille et de son environnement. Alors pour cela, votre association propose notamment des activités pédagogiques permettant de mieux comprendre l'abeille, son mode de fonctionnement et le rôle indispensable des insectes pollinisateurs.
Bonjour. Oui, effectivement, on a deux orientations principales. Première orientation pour faire découvrir l'apiculture familiale et de loisirs, c'est-à-dire, pour faire simple, nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des amateurs. C'est-à-dire pour tous ceux qui veulent avoir une ou plusieurs ruches dans le fond de leur jardin ou dans leur champ, donc on va les accompagner en leur donnant justement la formation de base et ensuite les accompagner tout au long de leur parcours d'apiculteur pour leur apporter un certain nombre de formation de perfectionnement, mais en même temps aussi parce que, évidemment, depuis je parle même plus de changement climatique, mais de dérèglement climatique, le métier de l'apiculture a beaucoup changé. Donc, ça demande aussi pour nous de se remettre en cause en permanence pour adapter nos techniques par rapport à l'environnement. Et ensuite, deuxième autre activité, c'est justement, on fait partie de la sensibilisation à l'importance de sauvegarder les abeilles et les insectes pollinisateurs. Et pour ce faire, on a installé au Rucher du Potier un circuit pédagogique pour faire découvrir, notamment aux écoles, l'abeille dans son environnement, donc comment elle fonctionne, mais aussi comment elle fonctionne dans son environnement et quelles sont les conditions d'un environnement favorable.
Donc voilà, vous êtes là aussi pour sensibiliser, comme vous le dites. J'avais envie de commencer avec vous par ce chiffre. En Europe, environ 40% des colonies d'abeilles ont été décimées en moins de 10 ans. Les pays d'Europe occidentale, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Italie, sont particulièrement touchés. Est-ce qu'il y a des chiffres concernant notre territoire sur la quantité d'abeilles encore présentes peut-être ?
Alors, depuis quelques années, régulièrement, on est sur des taux de mortalité de 30% à la sortie d'hivernage. Donc, je pourrais rentrer un petit peu. Mais en fait, nous, on calcule justement parce que l'abeille, à la différence des autres insectes pollinisateurs, va hiverner et non pas hiberner. Ça veut dire que pendant l'hiver, la colonie continue à exister et justement consomme les réserves de miel qu'elle a fait pendant l'année apicole. Et ensuite, nous, on fait le constat à la sortie de l'hiver, parce que l'hiver, c'est quand même toujours un moment de grande fragilité pour elle, et on calcule toujours à la sortie de l'hiver le nombre de ruches, enfin de colonies, pardon, qu'on va avoir pour préparer sa saison apicole. Et donc on est sur 30 à 40% de mortalité, ce qui est important parce qu'il y avait 30-40 ans qu'on faisait l'apiculture du papy. On disait il suffisait d'avoir ces ruches dans le fond du jardin, on y allait deux fois pour faire la récolte de printemps et d'été et on s'en occupait plus. Et depuis un certain nombre d'années, maintenant, effectivement, ça nécessite beaucoup de mise en cause, comme je disais, par rapport à la formation. Donc 30 à 40%, c'est effectivement un chiffre qu'on peut avoir également en France. Maintenant, à nous de aussi, par rapport à nos pratiques apicoles, d'essayer de faire des bonnes pratiques pour le bien-être de l'abeille, pour essayer de réduire ce taux de mortalité.
Et alors, quand on parle des abeilles, il existe en fait un très grand nombre d'espèces différentes dans le monde. Ce qui est très important à souligner, c'est que 35% de nos ressources alimentaires dépendent des abeilles.
Oui, alors globalement, il y a dans le monde plus de 2000 espèces d'abeilles sur lesquelles s'ajoutent toutes les autres insectes pollinisateurs. Donc sur 2000, en France, on a 800 espèces d'abeilles. Donc ce sont dans la famille abeille, Apis. Hein. Et dans cette famille abeille, il n'y en a qu'une seule qui produit du miel, Apis mellifera. C'est pour ça qu'on s'est intéressé énormément à elle et qu'on l'a fait vivre dans une boîte, dans une ruche. D'où l'idée qu'on a domestiqué l'abeille, mellifère. Par contre, l'ensemble des autres espèces d'abeilles, elles aussi contribuent justement à la pollinisation. Il faut savoir que globalement, la pollinisation, c'est 80% des ressources, de nos ressources alimentaires. C'est-à-dire que sans pollinisation, on se prive de 80% de nos réserves alimentaires. Et donc, par contre, ce qu'il faut revenir à vous pour répondre précisément à votre question, c'est que l'abeille mellifère, celle qui nous intéresse, donc celle qui produit du miel, c'est la seule espèce qui produit du miel, elle n'est pas en mesure de produire, de polliniser l'ensemble des autres insectes, l'ensemble des autres fleurs. Et notamment, parmi un des gros alliés dans les insectes pollinisateurs, c'est le bourdon. Le gros bourdon qu'on connaît tous, là, le bourdon champêtre ou le bourdon des murailles, lui, par contre, en ce moment, il est en grande fragilité. Et c'est vraiment un allié de la pollinisation parce que lui va polliniser des fleurs que l'abeille ne peut pas polliniser. Et si on se prive d'insectes comme le bourdon, on va avoir des difficultés. Une précision, nous, en tant qu'apiculteurs, avec une bonne technique, on sait comment reproduire l'abeille mellifère, donc on sait comment créer des essaims. Par contre, pour les autres abeilles sauvages, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment reproduire le bourdon et les autres espèces d'abeilles. Et c'est ça le gros danger qu'il y a actuellement.
Et les abeilles sauvages restent importantes puisqu'elles se complètent avec nos abeilles domestiques au niveau de la pollinisation, justement.
Oui, c'est bien un ensemble. C'est comme, vous savez, quand on dit la chaîne de la biodiversité, on est bien dans cette chaîne de biodiversité où chacun a un rôle. Les insectes, tout l'ensemble des insectes pollinisateurs, il y a les papillons, entre autres, par exemple, qui eux sont aussi menacés. Il y a d'autres espèces d'insectes, notamment, par exemple, comme la coccinelle, etc., qui sont moins pollinisateurs peut-être que d'autres insectes, mais chacun a son rôle, chacun a sa fonction. Il y a des espèces d'abeilles sauvages qui ne vont polliniser qu'une type de fleurs. Et ces types de fleurs, ben, elles ont son importance. Comme par exemple, aussi bien l'écureuil que les hérissons. Quand on dit l'hérisson, à quoi il sert ? Si, il a son importance dans la chaîne. Et on voit bien, notamment, c'est lui qui intervient pour, notamment, contrôler, par exemple, les limaces. Et plutôt que de mettre un certain nombre de produits qui va faire crever les hérissons et les limaces, essayons d'avoir comme allié l'ensemble de cette chaîne de biodiversité.
Et donc, justement, vous le dites, faire attention à cette chaîne de biodiversité. J'aimerais bien maintenant qu'on s'intéresse aux causes du déclin des abeilles. Quelles sont pour vous les principales causes pour qu'on cerne bien ces enjeux-là ?
Alors, c'est arrivé, vous disiez, l'apiculteur de papilles, il n'y avait pas de problème. Là, la première alerte a été avec un produit phytosanitaire, le gaucho. Et le gaucho, ça a détruit à l'époque 30 à 40%. Donc le gaucho a été interdit, mais le génie humain et commercial a fait qu'on a produit d'autres insecticides, dont les fameux néonicotinoïdes. J'arrive toujours du mal un petit peu à le dire. Mais il y a plein d'autres produits d'insecticides pour l'agrochimie, parce qu'on est en fait dans un type d'agriculture intensive qui fait qu'on est sur des productions monoculturales avec le maïs, le blé et le colza, pour faire simple. Hein. Et pour avoir ces produits, cette production intensive, on met un certain nombre de produits qui sont des désherbants ou des insecticides qui fait détruire un certain nombre d'insectes.
Et à savoir également que cette question de la monoculture, en plus des pesticides qui peuvent être ajoutés dans ces monocultures, c'est que finalement, les abeilles ne trouvent pas forcément toutes les ressources dont elles ont besoin en ayant ce mode d'agriculture-là.
Oui, parce qu'effectivement, si vous voulez, l'ensemble des plantes mellifères, c'est un ensemble de compléments. D'ailleurs, regardez, on va faire du miel de colza, on va faire du miel d'acacia, etc. Donc, chaque fleur a aussi également son importance. Et le fait que, si vous voulez, je parle toujours du bol alimentaire, moi, pour les insectes pollinisateurs. Ce bol alimentaire, il n'est pas extensible. Et du coup, comment on va le réduire ? Eh bien, en fait, c'est là qu'il va y avoir des compétitions aussi entre des pollinisateurs pour avoir accès à la ressource, d'où l'importance de maintenir une diversité de ressources mellifères. Sinon, évidemment, ça va nous poser des difficultés. Donc, vous me disiez quels étaient les différents facteurs de disparition des abeilles. Tu mets toujours des abeilles et des insectes pollinisateurs. Il y a à la fois, donc, dans un premier temps, il y a eu notamment tout ce qui touche les produits chimiques. Deuxième chose aussi qu'il y a eu, notamment spécifique pour l'abeille mellifère, un petit parasite qui s'appelle le varroa. Hein, c'est un parasite, pour faire simple, c'est le pouls de l'abeille. Hein, et donc, il se fixe sur l'abeille. Mais dès le début, dès que la reine abeille va pondre, la reine varroa va également pondre dans l'alvéole. Et donc, l'abeille domestique va se développer avec déjà attaché sur son dos ce petit acarien. Et ce petit acarien, il a un développement exponentiel au même titre que l'abeille. Et lorsqu'au printemps, on a une cinquantaine de varroa dans sa ruche, on est sûr qu'arrivé à l'été, on risque d'avoir beaucoup plus de varroa que d'abeilles. Donc ça va affaiblir l'abeille parce que ça suce son sang et ça la porte d'entrée à toutes les maladies. Ensuite, troisième chose, ça a été le fameux frelon, qui lui aussi va affaiblir énormément l'abeille. Mais il faut savoir aussi que le frelon, il s'attaque aux abeilles mellifères, notamment l'été, parce qu'il va, plutôt que d'aller chercher à manger ailleurs, il sait qu'il y a un garde-manger dans la ruche, donc il va s'attaquer donc aux abeilles mellifères. Mais il faut savoir qu'il consomme à peu près 30 à 40% d'abeilles, mais le reste de son repas, de son menu, c'est les autres insectes pollinisateurs aussi. D'accord. Et puis ensuite, l'autre grosse difficulté pour l'ensemble des insectes, hein, c'est la dispersion de leur habitat naturel. Dans le temps, il y avait les haies, il y avait plein de cours d'eau, etc. Il y avait plein d'autres choses comme habitat naturel. Et actuellement, du fait de la monoculture, on est en train d'abattre même les haies en bordure des routes qui ne vont rien. Et donc, toute cette dispersion d'habitat fait que, effectivement, nos insectes ont de plus en plus de mal à se reproduire, à s'abriter avec la période du froid, par exemple. Actuellement, comme il n'y a plus de haies, où est-ce qu'ils vont ?
Il y a également le réchauffement climatique qui est en cause dans cette perturbation, en fin de compte, de l'environnement des abeilles et de leur rythme de vie.
Oui, évidemment, pour nous, c'est une grosse interrogation parce que le changement, voire le dérèglement climatique fait qu'on a des alternances de météo qui sont très variables avec du temps très sec ou du temps très pluvieux ou du temps très venteux. Et donc, on s'aperçoit, si vous voulez, le châtaignier qui arrive en principe en fleurs autour de début juin. Eh bien, une année sur deux, on est privé de production de châtaigniers parce que soit il y a trop de vent, donc la pollen, soit il pleut beaucoup pendant 3-4 jours, donc ça rince la fleur, et ensuite il y a pendant 8 jours un soleil très dur qui va là par contre assécher la pollinisation, donc du coup à la sortie on n'a pratiquement pas de châtaignier. C'est valable par exemple pour l'acacia qui est un bon miel de bonne qualité. Pendant 2 ans il n'y a pas eu la possibilité d'avoir de l'acacia parce qu'il y a eu des gelées tardives, et du coup l'acacia lorsqu'il est en fleur début mai, il va geler. Même chose pour le tilleul.
Je vous propose, Michel, de faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer donc cette émission sur la thématique des abeilles.
Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Quelle est grande pour moi cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface. Rêvez-vous la violence? Ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne m'en notera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Et bam, et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas la mairie. Je veux ce cœur qui bat.
Retour dans l'AJT du local, on est aujourd'hui en compagnie de Michel Bélanger, coprésident de l'association Abeilles Mayennaises. Et donc aujourd'hui, ensemble, on est en train de parler de cette question des abeilles, de son déclin. Et on reviendra tout à l'heure, dans quelques instants, sur cette association et sur ce qu'elle met en place et propose sur notre territoire. Michel, tout à l'heure, on a abordé justement les causes du déclin des abeilles. Et j'aimerais bien revenir avec vous un instant sur... quelles sont les ressources que nous on a peut-être en tant que simples citoyens, mais également les collectivités, qu'est-ce qui peut être mis en place pour essayer de préserver ces abeilles, préserver leur environnement?
Alors ben, c'est tout simple, hein, c'est-à-dire c'est revenir aux choses naturelles. Entre autres, je vous parlais tout de suite de bols alimentaires. Donc effectivement, c'est s'interroger, savoir comment on peut augmenter ce bol alimentaire pour que chacun puisse se retrouver de la ressource. Ça veut dire notamment tout ce qui touche la partie urbain ou post-urbain, c'est d'essayer au niveau des haies paysagères qu'on peut avoir, plutôt que de mettre du thuya ou bien du laurier palme, de mettre des espèces mellifères. Plutôt que d'avoir des grandes pelouses qu'on va attendre tous les 8 jours, d'essayer de justement faire en sorte que l'herbe pousse, et surtout, c'est tout simple, c'est de semer plein de graines de plantes mellifères, des coquelicots, du bleuet, il y en a plein. Et donc du coup, là, on va augmenter ces espèces mellifères, et les collectivités justement, enfin je pense aux efforts que fait la ville de Laval, Laval Aglo, mais aussi Mayenne, Château-Gontier, et plein de collectivités, c'est justement d'essayer de planter, déjà de s'engager à replanter beaucoup d'arbres qu'on a abattu pour, plutôt que d'arraser les haies. Et ensuite, c'est de privilégier des espèces mellifères. Donc déjà, d'augmenter la ressource. Ensuite, c'est d'essayer justement toutes les causes de disparition des abeilles et des insectes pollinisateurs, notamment le frelon. Donc là, on s'engage dans un combat difficile parce que le frelon asiatique, c'est vraiment un fléau. Et ce fléau-là, on apprend à le combattre. On a essayé cette année de faire une campagne de piégeage du frelon asiatique au printemps, parce que au printemps justement on sait que les femelles qui ont hiberné vont ressortir, et le but c'est de piéger ces femelles au début avant qu'elles ne fassent des nids. Donc on a essayé de mettre quelque chose qui n'a pas donné entière satisfaction, mais bon, voilà, on expérimente là aussi, donc c'est de pouvoir ça. Et puis autre chose, nous aussi en tant qu'apiculteurs, c'est d'essayer de tester des pratiques alternatives, parce que actuellement pour combattre entre autres le varroa, on est la seule alternative en ce moment qu'on a, c'est de mettre des produits chimiques. Et ces produits chimiques, depuis un certain nombre d'années qu'on les utilise, leur effet, là aussi, c'est un peu comme les antibiotiques. Leur effet est en train de s'amenuiser. Donc, c'est d'essayer de tester d'autres pratiques alternatives pour revenir à des pratiques naturelles. Donc, là aussi, il faut y aller. Voilà, en essayant d'expérimenter. Actuellement, justement, on a installé un rucher au refuge de l'Arche dans un environnement qui se veut justement de préservation de la faune sauvage. Et on va essayer d'expérimenter cette pratique-là pour savoir comment on peut utiliser et si on a de la réussite, d'essayer de le généraliser à d'autres ruchers. Donc, moi, j'évite toujours de dire qu'on a les solutions miracles. En fait, la seule solution miracle, c'est de revenir aux ressources, à la source, au naturel. Comment on peut faire naturellement ? Comment on faisait qu'il y a 30-40 ans, on n'avait pas ce problème-là ? Donc, c'est d'essayer de recopier la nature, parce que la nature, elle a du bon sens. Donc, nous, c'est de revenir à ce bon sens-là.
Et peut-être, en quelques mots, vraiment rapidement, il est aussi important, en tant que consommateur, d'être attentif à l'origine du miel que l'on achète dans le commerce.
Ça c'est vraiment, merci de me poser ces questions, parce que le miel c'est un produit naturel. Le miel, faut en consommer 15 grammes par jour, ça fait du bien. Et en fait, le miel qui est produit en France, la plupart des apiculteurs, enfin, je donne la garantie que les apiculteurs mayennais professionnels, que je les connais bien, font du miel naturel. Et la difficulté actuellement, c'est qu'ils ont du stock parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur stock. Parce que tout simplement, c'est que les normes européennes font qu'on a du miel qui, lorsque vous voyez sur l'étiquette miel de toute provenance pays européen, des fois, ce miel européen qui vient notamment de pays dont je tairai le nom ici, font que c'est la porte d'entrée du miel qui vient d'Asie, notamment de Chine. Et le miel de Chine, quelquefois, il n'y a que 1% de miel dedans. Et le reste, c'est du sucre et qu'on mélange avec du miel. Ce qui fait qu'on arrive à des produits, à avoir du miel qui va coûter 3 ou 4 euros le kilo. Mais vous achetez du miel qui n'est pas du miel. Et que le miel d'un apiculteur mayennais, il a un prix de revient. Et qu'un prix de revient actuellement, c'est 15 euros le kilo de miel. Et donc, quand vous trouvez du miel en hypermarché à 5 euros le kilo, il faut se dire que ce n'est pas forcément du bon miel. Vous savez, vous avez un produit qui coule comme du Nutella un petit peu, là, d'accord ?
Oui.
Qui s'appelle une de miel, donc qui vaut 5 euros le kilo.
Voilà. Il faut s'interroger sur la qualité et donc acheter avec...
Acheter local. Vous avez plein de bons apiculteurs en Mayenne qui font du bon miel et notamment des professionnels qui vont faire du miel qui font également de la transhumance. Ils vont faire du miel d'acacia, du miel de lavande, etc. qui est un très bon miel. Découvrez ce miel de la Mayenne.
Peut-être qu'on peut revenir sur votre association, Michel, donc l'association Abeille Mayennaise, et revenir un petit peu sur ce que vous proposez sur notre territoire.
Oui, donc l'Abeille Mayennaise, comme vous l'aviez dit, a été créée en 2008. Justement pour faire de l'apiculture familiale et de loisirs. Donc, effectivement, on s'adresse à toutes sortes de familles. Et en même temps, donc, on a deux activités principales. La première activité, c'est de faire découvrir l'apiculture et la pratique de l'apiculture comme vous, si vous souhaitez un jour avoir quelques rues chez vous. C'est de, donc à la fois d'attirer l'attention sur le fait qu'on a affaire à du vivant. Et que lorsque on va prendre ses premières ruches, c'est comme lorsque vous allez prendre un animal à SPA, il va falloir en prendre soin, et tout au long de sa vie. Parce que c'est, quelquefois, il y a des gens qui disent « Ah, yeah, c'est bien, je vais faire quelque chose, un petit geste de bien pour protéger les pollinisateurs, je vais acheter une ruche. » Et sauf qu'une ruche, ça ne s'élève pas comme une poule. Donc, ça a besoin aussi d'avoir un certain nombre de précautions à prendre et de compétences à acquérir. Et donc, on est là pour permettre à ces apiculteurs de les accompagner tout au long de leur vie. Ça, c'est important. Donc, on a des formations, initiation à l'apiculture, qui vont démarrer mi-février. Donc, des formations qui vont se dérouler en 10 séances pendant toute la saison apicole. Donc, formation vraiment pour ceux qui découvrent. Mais aussi, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent à nous parce qu'ils ont déjà quelques ruches. Et puis tous les ans, leurs ruches disparaissent, parce que leurs colonies disparaissent, parce qu'ils ont des connaissances à acquérir. Et donc, on a un niveau 1 pour ceux qui débutent, niveau 2 pour ceux qui ont déjà pratiqué un petit peu, mais qui rencontrent des difficultés. Donc, ces formations-là vont démarrer sur nos 4 ruchers-écoles. On a 4 ruchers-écoles en Mayenne. Celui de Laval, qui est au rucher du Potier, sur l'ancien terrain de camping, qui est le siège social de l'association, à Évron, à Mayenne et donc à Château-Gontier. Donc ça, c'est le principal de nos activités apicoles. Et ensuite, en parallèle de ça, on a mis sur le circuit du rucher du Potier, on a mis sur le rucher du Potier un circuit pédagogique. Ce circuit pédagogique, c'est pour permettre justement aux écoles, donc j'invite tous les enseignants qui veulent venir découvrir l'abeille, on a un circuit pédagogique qui permet en 12 étapes de découvrir l'abeille dans son environnement. Donc on découvre le fonctionnement d'une ruche, donc c'est fait pour les élèves de maternelle, primaire et collège. La visite dure 2 heures, 2 heures et demie. On peut leur mettre à disposition également des mallettes pédagogiques pour qu'ils fassent en amont un travail d'animation dans les écoles pour pouvoir déjà sensibiliser les élèves. Et ensuite, ils viennent au rucher et on a des activités interactives qui sont proposées aux élèves. Donc, c'est des visites qui se font pendant la saison apicole, on va dire pour faire simple, de fin mars à fin juin, début juillet.
Merci Michel. Donc la protection du vivant, ça passe aussi par l'éducation dès le plus jeune âge et donc la protection également de l'environnement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir pu vous recevoir.
Plaisir partagé.
Et puis d'avoir reçu toutes ces informations sur les abeilles et leur environnement. Merci.
Merci à vous Margot.
Merci Michel.
Nous voilà arrivés au moment de notre chronique du jour. Je vous le disais, aujourd'hui c'est Donatien que l'on retrouve dans l'agité du local et il semblerait qu'il nous parle de promo.
En prévision du week-end, Donatien fait ses courses dans une grande enseigne dont nous tairons le nom, soucieux de ne pas faire de publicité. Peu importe d'ailleurs le nom du magasin, ce sont toujours les mêmes produits et, selon les saisons, les mêmes promotions qui s'enchaînent avec la même constance que, sur le calendrier, les 12 mois de l'année. Après les piles de cahiers vendus par l'eau de Troyes pour la rentrée scolaire, viennent, beaucoup trop vite d'ailleurs, les chocolats de Noël, puis janvier, le mois du blanc, les promos en mars sur les outils et les produits de jardinage, sur lesquels, à la sortie de l'hiver, on se précipite, envoyant aux casse-pipes et aux premières gelées les pensées immatures, les primevères délicates et les plants de tomates beaucoup trop tendres et fragiles pour survivre au sein de glace redouté des jardiniers. On se désolera début mai de voir se flétrir les promesses non tenues de ces jeunes plants, mais on se consolera avec les promotions pour les vacances qui approchent, les grandes vacances, les seules qui comptent vraiment. Étalés dans les allées, les tables de jardin, les barbecues, sacs de charbon de bois, allume-feu miracle, grilles et brochettes, parasols et bains de soleil, autant de produits face auxquels la carte de crédit ne cherche même pas à faire de la résistance. S'offrent à nous les longues soirées au jardin, les heures sur la terrasse avec les amis, les voisins et gens de bonne compagnie. 8 jours de folie, c'est la semaine des promotions au rayon plein air. 20% de réduction sur l'achat d'une deuxième glacière et pour 2 chaises de jardin, la troisième offerte, ce qui vous poussera à en acheter une quatrième. Et puis un transat, une chaise longue, une jardinière, 2 sacs de terreau, un filet de glaïeul et tiens, 4 casquettes, 2 bobs et un chapeau de paille, un plateau pour 6 verres avec un sachet de paille, encore des pailles, décidément, ça sent bon l'été. Au rayon des produits d'entretien, une promotion sur la lessive Saint-Marc. Au rayon d'à côté, on a ressorti les prises anti-moustiques. Au rayon charcuterie, s'étale d'appétissantes planchas. Au rayon boisson, tout un assortiment de sodas, bières sans alcool et jus de fruits. Au rayon des surgelés, on a fait le plein de glace à la vanille, au chocolat, au caramel et au nougat. Donatien déambule entre tous ces rayons. Pour éviter de succomber à la tentation de toutes ces promotions alléchantes, Donatien ne prend jamais de chariot au supermarché. Il se contente de porter à bout de bras un simple sac, autrefois c'était un cabas. Il passe à la caisse, réservée au moins de 10 articles, et quand il sort sur le parking où il s'est garé le plus loin possible, il rejoint à pied sa voiture en prenant tout son temps. Sans bousculade, il va, profitant en cette fin de matinée du seul rayon sans solde ni promotion, mais qui annonce une belle journée, le rayon du soleil.
Le ciel est gris, chargé de pluie, tout paraît triste et je m'ennuie. Le ciel est bleu et dans mes yeux, tout ressuscite, je suis heureux. Un rayon de soleil, c'est un cadeau du ciel, dès qu'il est avec nous, ça change tout. Un rayon de soleil, dès le petit matin, ça fait des merveilles, comme font tous les magiciens. Un rayon de soleil caresse mes volets, et je me réveille du bon pied et le teint frais. Les toits mouillés, tout désolés, courbent les chines désemparées. Mais sous l'ardeur de la chaleur, même les ruines ont des couleurs. Un rayon de soleil, c'est un cadeau du ciel. Dès qu'il est avec nous, ça change tout. Un rayon de soleil, ça fait chanter la vie. Et dans nos querelles, il nous donne l'accent du midi. Un rayon de soleil, ça fait chanter le jour. Et sa ritournelle est une chanson d'amour. Quand il fait beau, quand il fait chaud, tout s'illumine au feu nouveau. Et près de toi, je sens déjà que se ranime le feu en moi. Un rayon de soleil, c'est un cadeau du ciel. Dès qu'il est avec nous, ça change tout. Un rayon de soleil, c'est une symphonie qui met des ombrelles à la place des parapluies. Un rayon de soleil, c'est beaucoup de bonheur, car c'est l'étincelle qui nous entretient le cœur. Un rayon de soleil, c'est un cadeau du ciel. Dès qu'il est avec nous, ça change tout.
L'AJT du local s'arrête ici, mais les émissions continuent, puisque ce soir à 19h, vous écouterez les Rendez-vous de la Peste, et dans l'émission d'aujourd'hui, Anne-Sophie Bréhin, cofondatrice de l'entreprise Les Pieds sur Terre, et Saïd Abouali, directeur général d'Alternatrie 53, nous parlent de leur projet de structuration de la filière biodéchets en Mayenne via le compostage et la méthanisation afin de favoriser leur retour à la terre au plus proche du lieu de production. Ensuite, à 21h, c'est Frères de Chaussures, une émission sur le rap français. Mais tout de suite, c'est l'actu des oubliés, une émission qui parle des attaques contre nos droits, notre liberté à travers le monde, mais qui raconte surtout les résistances qui soufflent un espoir déterminé. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'AJT du local. D'ici là, réunissez-vous, prenez du temps ensemble et surtout, vous le savez, faites-le bien.
Tu sais, Mimi, quand je commence l'AJT du local, j'aimerais que ça s'arrête jamais.